Pauline Pucciano, Le Septentrion. Acte 3. Yorick avait convoqué Drial dans son sanctuaire, et ce changement méritait réflexion. Drial avait toujours apprécié la méfiance que l'ancien lui portait, méfiance qui les maintenait à distance et préservait à chacun d'eux un plein droit de trahison. Il avait toujours agi, d'ailleurs, dans l'éventualité d'une rupture avec les terres du centre, et leur entente tacite reposait en grande partie sur la transparence de leur cynisme. Ce soir, la voix de l'ancien était semblable à elle-même, mais le lieu de rendez-vous avait été changé sans explication, et Drial, en se dirigeant vers l'aile centrale, à travers les couloirs neutres dont la froideur royale seyait toujours à son humeur, songea qu'il devait être à l'agonie ou en faillite pour déroger ainsi à leur coutume. Il traversa l'antichambre et frappa à trois coups violents à la porte. Le système de déverrouillage fut actionné de l'intérieur et Drial entra dans les ténèbres. « C'est toi, chien de l'enfer ?» demanda Yorick, qui devait se trouver à une certaine distance. « Oui, c'est moi. » Drial fit un pas et tenta de percer l'obscurité, mais elle était si épaisse que ses yeux s'écarquillaient en vain. « C'est donc ainsi, » murmura-t-il.
« Quoi ?»«
Le noir. »« Oh !» dit Yorick. « Bien sûr. Il y a si longtemps que personne ne voit ici, que la lumière a déserté. »«
Ça m'est égal, » répondit Drial en s'asseyant par terre tout près de la porte. « Je suppose que je ne perds pas grand-chose. »
Yorick ne répondit pas.
« Le silence et le noir ne me gênent pas, » reprit Drial. « Mais si c'est tout ce que tu me réserves, j'avoue que j'ai mieux à faire. »«
Drial, » gémit Yorick, « tu ne vois pas que je meurs ?»«
Tu devrais t'entendre, on dirait une vieille femme, » dit Drial avec agacement.
« Toi non plus, tu ne comprends pas. »«
Mais il n'y a rien à comprendre. La mort fait partie du jeu. Tes états d'âme sont piteusement ordinaires. »«
Je me moque d'être indigne, » grogna l'ancien.
« M'as-tu appelé pour t'écouter geindre ? Ou peut-être veux-tu que je t'achève ? C'est une attention charmante, vraiment, mais je te répète que j'ai autre chose à faire. » Il entendit un bruit caverneux de déglutition qui lui fit un peu peur.
« N'as-tu pas de nouveaux projets de destruction ?» demanda l'ancien d'une voix presque enjouée.
Drial se tut un instant.
« Tu as tellement peur de la solitude que tu ferais n'importe quoi pour me retenir, c'est ça ?»
« Il me semble que nous ne devrions pas nous arrêter en si bon chemin après la victoire contre cette petite imbécile. »
Drial regretta de ne pas pouvoir voir son visage. L'intonation lui semblait être la réplique exacte de l'intonation naturelle de Yorick, avec cependant un vice indiscernable qui rendait la phrase étrange.
« Vas-tu cesser de te plaindre et de gémir ?» demanda Drial.
« Oui, » souffla le vieillard.
« Plus un seul mot sur ta foutue mort qui ne saurait tarder et que les trois quarts du monde attendent avec impatience ?»«
Non. »«
Promets-moi de mourir sans crier. »«
Je le promets. » »«
Et de ne pas réclamer ma main comme un vieillard sentimental. »
L'ancien eut un sanglot sec. L'évocation de cet instant lui semblait insoutenable.
Drial eut une bouffée de plaisir sadique.
« C'est bon, » dit-il après un silence. « Que veux-tu que nous envahissions ?»
Il y eut d'abord un long soupir.
« Les terres boréales !»
Drial éclata de son rire habituel. « J'aurais dû m'en douter. Qui crois-tu pouvoir obtenir de notre côté ?»«
Rhem est enchaîné par un accord militaire très strict, et si besoin était, j'aurais quelques espérances du côté de l'archipel et de l'Austrie. »
Drial semblait fort satisfait. « Voilà qui va creuser un rift, » dit-il.
« Il en va de même qu'aux échecs, » dit lentement le vieillard. « Il faut amorcer la finale tant que l'on a encore l'avantage. »
Drial se releva.
« Voilà de quoi tenir en respect ta mort et mon ennui, » dit-il gaiement.
« Ils nous attendront, sois tranquille. »
Drial se dirigea vers la voie du vieillard.
« On ne peut envisager un quartier général plongé dans l'obscurité, » dit-il.
L'ancien se leva et disparut dans l'ombre. Drial entendit le glissement de sa robe sur le sol, puis un cliquetis de clavier.
« Fiat lux !» murmura Yorick,
et la lumière fut. La tanière de l'ancien était telle que Drial avait pu l'imaginer, austère, laide, martiale. Les quelques objets décoratifs avaient une fonction toute symbolique. Armes anciennes, portraits de vieillards livides, trophées poussiéreux d'un impérialisme immémorial. Drial imagina une armée de vieillards à cheval, brandissant des étendards ternis et des faux rutilantes dans le tremblement de leurs mains. Il les imagina envahissant des peuples jeunes et nus, marés de haine et de vengeance, squelettes apportant la mort pour la distraire et lui arracher le temps d'un meurtre, un sursis déjà mille fois renouvelé. L'ancien semblait plongé dans ses réflexions, et Drial l'observa un long moment avant de reprendre la parole. Qu'une telle pugnacité existât encore au fond du visage cireux l'étonna tout à coup, et il se prit à admirer, au fond des yeux vides, les lueurs lointaines du combat qu'un homme engageait seul contre son anéantissement, sans le moindre espoir de victoire. Solan avait l'esprit qui flottait entre deux niveaux de conscience lorsqu'il reçut le communiqué de Drax. La souveraineté des terres boréales avait été remise en cause par la tellurie. Les mots dansèrent et résonnèrent un moment dans sa tête, sans qu'il les charge d'aucun sens. Boréales et tellurie, surtout, qui étaient les plus beaux et les plus poétiques. Puis il y eut un déclic. Les terres boréales avaient été attaquées par la tellurie. Il s'agissait de son pays que la tellurie menaçait, mais Solan ne parvenait pas à se souvenir de ce qu'était la tellurie, et tentait en vain de mettre une idée ou un visage derrière ce mot qui venait de naître des profondeurs terrestres. Des images bizarres prenaient forme dans son imagination, et une créature aux proportions gigantesques apparut. Sa gueule cependant restait floue, et mit plusieurs minutes à devenir nette. Il y eut un second déclic, quand le monstre arbora le visage de Drial, et Solan fut quelques instants assez lucide pour déverrouiller sa porte d'entrée et rappeler le prince double. En attendant qu'on vînt pallier sa propre défaillance, sa rêverie lui figura des labyrinthes trouvant enfin leur issue et des portes s'ouvrant battantes sur l'air libre. Lorsqu'enfin, par le secours de son ami, il fut à nouveau capable d'intelligence, il se posa tout de suite une question qu'il ne s'était jamais posée et demeura plusieurs heures obsédé par les réponses qu'elle appelait. En cas d'annexion d'une des puissances, qu'adviendrait-il de son représentant ? Aefex avait vécu les dernières semaines dans un calme monastique, reprenant après les troubles le rythme de sa solitude. Les affaires de l'État lui faisaient passer quelques heures quotidiennes, le reste du temps se dévidant tant bien que mal à travers les rituels sans joie qu'il avait fini par s'imposer. D'inutiles exercices de gymnastique en inutiles exercices de l'esprit, de repas inodores en sieste sans sommeil, il réalisait chaque jour l'exploit de son incarcération, comme un automate résigné à l'impuissance de sa volonté. Il évitait autant que possible, par un choix délibéré, de s'enquérir du contexte international, et pouvait passer plusieurs jours sans devoir penser à ceux qui existaient derrière sa porte close. C'est pourquoi il sursauta et reçut une importante décharge d'adrénaline lorsque le téléphone des communications internes sonna. La voix qui faisait intrusion était une voix de femme, au timbre pur et profond. Grand consul, ici l'ambassadrice du Septentrion. Je vous ai reconnu, répondit lentement Aefex. Je vous informe qu'un conseil des 10 se réunit demain sur mon initiative. Bien, la réunion est-elle fixée à l'heure habituelle? Oui. Pourrais-je connaître votre position générale? Aefex ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, et resta quelques secondes muet, retenant inlassablement dans ses mains le rat qui tentait sans cesse de s'en échapper. « Quel sera l'ordre du jour ? » finit-il par demander. Ce fut au tour de Lioa de paraître surprise. Les dispositions militaires de chacune des puissances concernant l'agression des terres boréales. Aefex reçut la nouvelle sans sourciller. L'Austrie restera neutre aussi longtemps que cela lui sera possible. N'y a-t-il aucune circonstance pour l'instant qui puisse vous faire sortir de cette neutralité ? Non, aucune. Lioa le remercia. Et il raccrocha assez précipitamment. Le rat, excité par le mouvement brutal, mordit la main d'Aefex jusqu'au sang. Celui-ci était plongé dans une sorte de stupeur et ne se rendit pas compte qu'il était en train d'augmenter la pression autour du cou du rat d'une manière irréversible. Quand l'animal fut immobile, il le caressa encore longuement, sans y penser, de sa main lancinante et sanglante. Puis il essaya de faire le vide, de s'imprégner de la saveur de l'immobilité et du silence. Quand il reprit ses esprits et qu'il vit sa propre main, sur laquelle la plaie devenait vilaine, caresser le cadavre, il décida de ne pas désinfecter la morsure. Puis, un peu soulagé, il alla dans le laboratoire et resta fasciné, les yeux humides, devant la crémation du rat, pendant de longues minutes malsaines. La relecture de ces pages manuscrites emplit Nebelwyr d'une satisfaction purement égoïste, et il regretta un moment de ne pas avoir consacré sa vie à cette activité. Il ne s'agissait certes que d'une nouvelle donnée pour Nacht, qui n'en apprécierait jamais la grandiloquence tragique, et pourtant il avait le sentiment d'avoir pris possession de l'histoire qu'il racontait et d'en être devenu l'écrivain tout-puissant. Pensivement, il barra un dernier adjectif. « Nacht, je vais entrer une nouvelle donnée dans ta base sur l'UOA. » L'ordinateur ouvrit de lui-même le fichier nécessaire. « Quel en est le titre ?»« L'UOA. Deux points, Genèse et Éducation. » Quelle en est la nature? C'est une synthèse que j'ai rédigée après la vision des documents personnels de Bartok. Il faudra créer une passerelle entre les deux fichiers. Désirez-vous installer un code d'accès? Non, ce n'est pas utile. Vous pouvez commencer la lecture. Nebelwyr s'éclaircit la voix. Il savait que tout à l'heure, pour la correction, Nacht calquerait son intonation sur la sienne. Comme une éclipse ou un miracle, l'UOA est due à la conjonction improbable de forces surhumaines, car la nature, l'histoire et la science ont convergé autour de son berceau pour réaliser en elle leur monstrueux chef-d'œuvre. Enfantée dans la blancheur immaculée des laboratoires du Septentrion, et portée jusqu'à l'âge adulte par les bras sans chaleur d'une multitude de chercheurs, psychiatres et politiques, elle a été privée de l'air libre, des arbres et de la couleur du ciel, privée du temps que l'on perd à grandir, de sa solitude, de son amour et de son âme. En échange, elle a reçu un destin aux dimensions de l'histoire, qui est tout ce qu'elle a jamais possédé en propre, et auquel elle a accroché toutes les forces contenues de son enfance, tous les espoirs brimés et tous les rêves déchus. Elle s'est dirigée vers lui comme vers un au-delà de lumière, indifférente au feu qui consumait sa vie. On avait décidé qu'étant née pour l'enfermement, elle ne devrait jamais sortir, qu'étant née pour la solitude et la trahison, elle ne devrait jamais aimer, qu'étant née pour le pouvoir, elle devrait toujours obéir, et qu'étant née pour l'histoire, elle ne devrait pas avoir de passé. Cela a été un long combat, que des dizaines de personnes ont mené contre une enfant, contre les légions de désirs qui s'échappaient d'elle, ses larmes et son désespoir, un combat qui a été âpre, terrible parfois, et toujours renouvelé. À 4 ans, l'UOA a cessé de se plaindre du sommeil et de la faim. À 5 ans, elle n'a plus recherché le contact de quiconque, et à 7, elle a arrêté de pleurer. Les connaissances qu'elle a engrangées dès lors avec ferveur lui ont fait perdre en quelques mois tout ce qui lui restait d'enfance, et sa mémoire infaillible, ordonnée en une impeccable clarté, sa mémoire qui semblait se souvenir même de ce qu'elle n'avait jamais appris, a fait parfois frissonner d'effroi ses professeurs dont elle buvait le savoir avec une soif vampirique et qu'elle laissait pour compte, à demi brisée, lorsqu'il venait à décevoir ses insatiables exigences. À 10 ans, elle connaissait sur l'histoire du Septentrion ce qu'une poignée d'hommes peut-être pouvait connaître et dessinait de mémoire des cartes d'une complexité presque illisible. On lui a enseigné l'art de la politique et de la stratégie. On lui a appris à se défendre et à tuer, à veiller, à se soigner, à utiliser et à réparer des ordinateurs de plus en plus sophistiqués. Rien de ce qui pourrait d'aventure lui servir dans l'Olympe ne lui a été épargné, et l'on a fait d'elle une sorte de spécialiste universelle, d'une autonomie presque absolue, capable de tirer d'elle-même tout ce qu'un être humain peut attendre d'autrui. C'est Bartok, du haut de l'Olympe, et toujours à travers les écrans glacés des communications informatiques, qui a présidé à sa création, dès avant sa conception. Il en a eu l'intuition, comme un artiste entrevoyant son œuvre à venir, et a ordonné en quelques semaines tout le dispositif nécessaire à sa formation. Il a dépensé pour elle une masse d'argent insensée et a consacré à son projet toutes les énergies que lui laissaient les responsabilités du gouvernement. Il s'est tenu au courant journellement de ses progrès et de son évolution et a rectifié, ajusté et modifié le contenu de ses apprentissages jusqu'au jour de sa mort. Les experts en psychiatrie ont été sélectionnés par ses soins, et bien que beaucoup aient refusé de se prêter à une telle expérimentation, ceux qui ont adhéré au projet figurent parmi les plus hautes sommités médicales du Septentrion. Leur responsable en chef, expert en construction de la personnalité, a dû livrer nombre de batailles contre Bartok pour préserver Lioa de la folie que certains traitements auraient rendu inévitable. L'ambassadeur, difficile à convaincre, a cependant toujours cédé, et l'on a maintenu un fragile garde-fou entre la jeune fille et le gouffre. Grâce au psychiatre, les séances de résistance psychique n'ont commencé qu'après la puberté et ont été interrompues, au besoin pendant plusieurs mois, lorsque Lioa montrait des signes d'effondrement mental. Cet apprentissage a été le plus long et le plus douloureux, mais, comme prévu, elle en est sortie vainqueur et apparemment invincible. Les seuls sentiments que la jeune fille se permet de manifester, les seuls peut-être qu'elle éprouve, sont de nature filiale et patriotique. Elle aime la civilisation dont elle est issue et semble légère à la perspective de passer sa vie à la défendre et porte à Bartok, qu'elle appelle son père, une admiration proche de l'idolâtrie. Le psychiatre s'est souvent demandé quelle était la part de l'artifice dans ses passions, car il sait les moyens qui ont été utilisés pour les imprimer dans son âme. Leur force, toutefois, étayée par la raison, semble avoir dépassé le simple conditionnement. Il en va de même d'ailleurs pour toute la personnalité de Lioa. Le résultat a soudain transcendé le cheminement laborieux qui l'a précédé. Il y a eu un avènement souverain qui n'est venu que d'elle. Elle n'est pas la simple facture d'un modèle méticuleusement mis au point, mais, comme les images sublimes péniblement accouchées dans la viscosité de la peinture, elle est l'art qui échappe à l'artiste, le soleil tournoyant délivré de son créateur. À 20 ans, Lioa était prête à gouverner le Septentrion, mais elle a dû attendre 3 ans pour voir s'ouvrir devant elle les portes dont l'ombre avait rempli sa vie. « La lecture est-elle terminée ?» demanda Nacht. « Oui, » répondit Nebelwyr.